Simon Pierre, Sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Wollstone, édition 1950. Deuxième partie, les épîtres. Chapitre 20. Notre appel céleste. 1 Pierre, chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi le salut des âmes, duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit-Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désirent de regarder de près. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, « Soyez saints, car moi je suis saint. » Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous qui, par lui, croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance fussent en Dieu, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu, parce que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. Le grand sujet de la première épître de Pierre est le gouvernement de Dieu en relation avec son propre peuple, les justes, tandis que ce même gouvernement en rapport avec le monde est le sujet de la seconde. Le chapitre 1 traite de la manière dont la grâce de Dieu agit envers nous pour nous maintenir dans le droit chemin, malgré les tentations, et comment elle nous donne les encouragements nécessaires. Il parle spécialement des épreuves du chrétien, et le chapitre 2 de ses privilèges. Verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion, du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Pierre écrit à des Juifs croyants, dispersés à cause des persécutions survenues après la mort d'Étienne. Il entreprend la tâche que le Seigneur lui a confiée après sa restauration publique, en Jean 21, « Paix mes brebis ». Auparavant, Pierre avait vu Jésus seul à seul, ainsi que Luc 24, verset 34, y fait allusion. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Nous ne savons rien de cette entrevue. Ils durent certainement s'entretenir de la chute de Pierre, car, devant tous, le Seigneur confie à son disciple ses brebis, ceux qu'il aime le mieux, et lui donne ainsi la preuve de son entière confiance. Pierre avait nié trois fois connaître son maître. Son maître lui donne trois mandats concernant ceux qu'il aime. Le reniement de Pierre avait eu pour cause sa trop grande assurance en lui-même. Maintenant, le Seigneur peut avoir confiance en lui. Devant tous ses frères, Jésus avait rendu à l'apôtre sa place en lui remettant ses agneaux, ses brebis à soigner et à nourrir. Verset 2.
Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
Au moment où l'apôtre écrit ses épîtres, tout ce qui est juif se trouve sous la sentence du jugement. Il révèle à ceux qui ont quelque attache avec le judaïsme l'appel céleste du croyant, au lieu de l'appel terrestre, maintenant mis de côté. L'appel céleste est une chose plus générale que l'Église. Abraham, par exemple, quoique ne faisant pas partie de l'Église, a part à l'appel céleste.
Car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur.
Hébreux 11, verset 10. L'Esprit de Dieu commence par assurer ses dispersés qu'ils sont élus, situation dans laquelle la grâce de Dieu les a placés. Dans ce verset, nous avons la Trinité. Bien rares sont les passages de la parole qui la mentionnent en une fois comme ici. L'élection du Père, la sainteté de l'Esprit et le sang du Fils. Le Père m'a choisi. L'élection est individuelle et date d'avant la fondation du monde. L'Église n'est jamais élue dans l'Écriture. Le verset 13 du chapitre 5 parle de celle qui est élue, probablement une sœur en Christ à Babylone. 1 Pierre 5, verset 13.
Celle qui est élue avec vous à Babylone vous salue.
L'Église n'est pas en vue avant la mort et la résurrection de Christ, sauf comme
le mystère caché dès les siècles en Dieu,
tandis que l'élection individuelle était déjà avant la fondation du monde. Ce sujet de l'élection peut paraître arbitraire à quelques-uns. Considérons-la comme une affaire de famille qui ne concerne pas le monde. Dans une maison règne la joie et le bonheur. Sur la porte, un écriteau porte ces mots « Quiconque veut peut entrer ». C'est l'Évangile. De l'autre côté de la porte, à l'intérieur, je lis « Quiconque est entré ne sortira jamais ». C'est ma sécurité, le fruit de l'élection. Rien ne peut troubler une âme qui est élue. Au contraire,
elle puise là toute sa consolation. Dieu nous a choisis, nous, croyants en Christ, avant la fondation du monde. Il réserve pour nous tout ce qui est au ciel, comme il nous garde en vue de cet héritage. Ce verset 2 établit un contraste frappant avec le judaïsme. Père est un nom particulier au christianisme. El Shaddai était le nom par lequel Dieu se révéla à Abraham. Et Abraham marcha devant le Dieu Tout-Puissant comme pèlerin, dépendant de lui. Genèse 17, verset 1.
Et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. »
Par son nom de Jéhovah, il se fit connaître à son peuple Israël, qui, pour être parfait, devait obéir à ses commandements. Deutéronome 18, verset 13.
« Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. »
Mais Père est le nom par lequel il se révéla à nous, afin que nous soyons comme notre Père.
Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Matthieu 5, verset 48. Quelle chose merveilleuse que d'avoir Dieu pour Père et de savoir que, par l'œuvre de son Fils, nous sommes en relation avec le Père. Après la résurrection, Jésus a dit,
« Je monte vers mon Père et votre Père. »
Nous avons ici mentionné premièrement l'élection de Dieu le Père, puis la sainteté de l'Esprit. On aurait supposé que le sang de Jésus serait placé avant la sainteté de l'Esprit, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est une chose extrêmement belle de savoir que, à la conversion, nous sommes sous l'action directe de l'Esprit de Dieu. L'action de l'Esprit de Dieu sur l'homme et l'habitation de l'Esprit dans le croyant sont deux choses très différentes. Le Père choisit selon sa préconnaissance de toute éternité, il a les yeux sur nous. Au moment opportun, l'Esprit fit son œuvre en nous, et la première chose fut de nous mettre à part pour Dieu. Et voici le contraste avec le judaïsme. Qu'est-ce qui mettait Israël à part pour Dieu? Des ordonnances extérieures. Comment sommes-nous mis à part? Par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous.
Pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
Nous devons constater que les choses se passent généralement ainsi. Prenons Saul de Tarse, le modèle d'une conversion dans l'Écriture. Quand il appelait Jésus « Seigneur », l'Esprit de Dieu travaillait en lui. Lorsqu'il ajoute « Que dois-je faire ?» c'est l'obéissance. Il ne connaissait pas encore la purification faite par le sang, mais sa volonté était brisée. Ainsi, il était préparé à faire la volonté de Dieu. Il demeura cependant encore dans une grande misère pendant 3 jours. Puis Ananias vint vers lui et lui dit,
« Lève-toi et sois baptisé, et te lave de tes péchés, invoquant son nom. »
Acte 22, verset 16. Saul acquit alors la connaissance du pardon. Telle est la manière dont Dieu travaille. L'âme, sous l'action de l'Esprit, désire obéir à sa parole. Ensuite vient la connaissance de la rémission des péchés par la foi en son sang. Versets 3 et 4.
Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcescible.
Tout espoir juif se concentrait sur le Messie. Lui mort, toutes les espérances de ce peuple se sont évanouies. Ils ont abîmé l'héritage que Dieu leur réservait. Leurs péchés l'ont souillé, et il disparut de devant leurs yeux lorsqu'ils furent emmenés en captivité. Mais, par contraste, notre héritage à nous croyants est gardé pour nous, et nous sommes gardés pour l'héritage. Verset 5.
Gardés par la puissance de Dieu par la foi,
c'est-à-dire par l'énergie de la foi, travail de l'Esprit de Dieu en nous. Dans les Épîtres, Pierre fait quelquefois allusion à son propre passé. Il n'avait pas été gardé à cause de sa grande confiance en lui-même, mais, dit-il, Dieu le fera pour vous par sa puissance, par la foi. Il devait se remémorer le moment où le Seigneur lui avait dit
« J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas »,
le moment où il croyait pouvoir se garder tout seul. Nous sommes gardés pour
un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps.
Pierre fixait toujours les yeux sur la gloire à venir, et le salut, pour lui, sauf au verset 9, est toujours la délivrance du croyant de cette scène présente, esprit, âme et corps, pour être avec Christ dans la gloire, salut qui est prêt à être révélé. Verset 6.
En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligé maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire.
Si vous pensez à la scène où est Christ, où vous serez avec lui, si vos cœurs s'appuient sur la pensée de l'héritage qu'il a en réserve pour vous, et à la demeure que vous partagerez avec lui, où il y aura une joie éternelle, vous vous réjouirez. Puis l'apôtre ramène les pensées aux choses d'ici-bas en disant
« Tout en étant affligé par diverses tentations ».
Ce n'est pas l'âme attristée par la perte de communion, c'est l'âme oppressée par des épreuves nombreuses, si le Seigneur en voit la nécessité. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Nous n'aimons pas le joug, mais l'Écriture dit
« Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse ».
Lamentation de Jérémie 3, verset 27. Cela nous rend patients au fur et à mesure que nous avançons en âge. Le Seigneur ne commet pas d'erreur. Quoi qu'il arrive, que nos cœurs s'en remettent, opère avec cette pensée, cela est nécessaire. Ces épreuves ne sont pas toujours un châtiment, mais une discipline utile à ses enfants, pas seulement une instruction, mais aussi une éducation. Il désire développer, manifester le résultat de sa grâce dans nos âmes, le fruit de l'esprit.
L'amour, la joie, la paix, la longanimité,
etc. Et il a ses propres voies pour produire ses fruits. Voyons 2 Corinthiens 4, versets 10 et 11.
Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle.
Quelle différence merveilleuse entre ces deux versets. Au verset 10, Paul désire que la vie de Jésus soit manifestée dans son corps. Au verset 11, c'est comme si Dieu disait « Paul, je te place dans des circonstances telles que tu puisses réaliser ton désir et que tu ne puisses vivre rien d'autre que la vie de Jésus. » Si cela est nécessaire. Mais comme c'est seulement pour un peu de temps et que cela ne durera pas toujours, cela soutient le cœur. Cherchons toujours le côté lumineux de l'épreuve et cherchons à avoir toujours des visages radieux et lumineux, même si nous sommes dans une grande tribulation. Pensons à Paul et Silas à Philippe. Quoi de plus sombre? Jetés en prison, les pieds attachés au poteau, que font-ils?
Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu.
Acte 16, verset 25. Ils exerçaient leur sainte et royale sacrificature dans la prison. En chantant les louanges, ils étaient sacrificateurs, en disant au geôlier terrifié,
« Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. »
Acte 16, verset 28, ils étaient sacrificateurs du roi. La joie remplit leur cœur, le geôlier se convertit. La tribulation peut subvenir de diverses manières, mais nous devons nous y préparer.
Sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Romains 5, versets 3 à 5. Verset 7. l'épreuve de votre foi bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ.
Le chemin de l'épreuve a une fin lumineuse. La sphère de la foi est sur la terre et Dieu l'éprouve. Il ne donne jamais une foi qu'il ne puisse éprouver. Ceci amènera le fruit qui apparaîtra peu à peu quand tout sera manifesté à la révélation de Jésus-Christ. L'épreuve par le feu dont il est question ici est une allusion aux trois serviteurs hébreux que Nebuchadnezzar jeta dans la fournaise. Daniel 3, versets 12 à 30.
Il y a des hommes juifs que tu as établis sur les services de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent pas compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et la statue d'or que tu as dressée, ils ne l'adorent pas. Alors Nebuchadnezzar, en colère et en fureur, commanda d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on amena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mon Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, si, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la musette et toute espèce de musique, vous êtes prêt à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, à l'instant même vous serez jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et qui est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, « Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. S'il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'apparence de son visage fut changée envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et commanda de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on était accoutumé de la chauffer. Et il commanda aux hommes les plus vaillants de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés dans leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Parce que la parole du roi était rigoureuse et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme du feu tua ces hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar, consterné, se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent et dirent au roi, « Certainement, ô roi !» Il répondit et dit, « Voici, je vois 4 hommes déliés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi qui étaient assemblés virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et leurs caleçons n'avaient pas changé, et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et ont changé la parole du roi, et ont livré leur corps afin de ne servir et n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et de par moi l'ordre est donné qu'en tout peuple, peuplade et langue, quiconque parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi, Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le feu eut pour seul effet celui de brûler leurs liens et de les rendre libres. Le Seigneur agit de même envers nous. Le feu nous fait éprouver le sentiment de la présence du Seigneur. Comme pour Daniel et ses compagnons, quelqu'un de semblable à un fils de Dieu se trouvait au milieu du feu avec eux. Verset 8. Lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse.
Il ne peut y avoir un enfant de Dieu qui n'aime pas le Seigneur, seulement nous ne l'aimons pas comme il devrait être aimé. Une précieuse relation existe entre ceux,
quoique vous ne l'ayez pas vu,
et Apocalypse 22, verset 4,
ils verront sa face.
Quelle joie pour nous de voir sa face, d'être dans sa présence, de voir ce visage qui fut
défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme.
Ésaïe 52, verset 14.
Croyant en lui, vous vous réjouissez.
Nos épreuves peuvent tourner à gloire et à honneur à la révélation de Jésus-Christ, mais, en attendant, la foi doit être en exercice, et nous pouvons nous réjouir. Bien rares sont les enfants de Dieu qui, journellement, se réjouissent dans une personne, d'une joie ineffable et glorieuse, et non dans l'œuvre accomplie pour nous qui vient ensuite.
Verset 9. Recevant la fin de votre foi, le salut des âmes.
En croyant en lui, nous avons reçu le salut de nos âmes, une chose que nous possédons maintenant. Nous n'avons pas encore vu le Seigneur, mais du moment que nous nous reposons sur lui par la foi, nos âmes sont sauvées. Dans les trois versets suivants, 10 à 12, trois choses sont à relever. Le témoignage des prophètes, le témoignage du Saint-Esprit et la venue du Seigneur, son apparition en gloire. Dans leur prophétie, les prophètes ont parlé des souffrances de Christ et des gloires qui suivraient, telles que Dieu les leur avait révélées. Ils n'écrivaient pas pour eux, mais pour nous chrétiens.
Dans lesquels des anges désirent de regarder de près.
Nous sommes très négligents dans l'étude des Écritures, et nos cœurs sont, hélas, bien peu désireux de pénétrer ces profondeurs cachées. Par contre, les anges désirent les considérer. Les anges n'avaient jamais vu Dieu avant d'avoir vu l'enfant Jésus à Bethléem, car jusqu'alors il n'y avait pas eu de révélation de Dieu. À sa naissance, il y eut un mouvement de l'armée céleste. Une multitude accompagna l'ange qui annonçait sa venue et chantait des louanges à Dieu. Le ciel entier s'occupait de ce qui se passait sur la terre, car le Fils de Dieu y était descendu. Les anges le servirent, quand il eut faim, dans le désert, après que Satan l'eut quitté. Dans le jardin, pendant qu'il était dans l'angoisse, les anges vinrent le fortifier. Les anges se sont intéressés d'une façon merveilleuse à la naissance, à la vie, à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, toutes choses dans lesquelles il désire regarder de près. Et pourtant, il n'est pas descendu ici-bas pour les anges. Il chantait à sa naissance, mais pas à sa résurrection. Pourquoi ? Pour permettre aux rachetés, à ceux que cela concernait, à ceux pour lesquels Christ est mort, de célébrer la louange. Verset 13.
C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement.
En Orient, les hommes revêtent une robe flottante. Ainsi, pour pouvoir travailler, il est nécessaire de porter une ceinture. Dans les reins gît le secret de la force. Ce verset nous engage donc à appliquer nos âmes à la recherche de ces choses.
Cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis.
Colossiens 3, verset 1. Car, dit Paul, je vous donne quelque chose non seulement pour satisfaire vos affections, mais encore votre esprit, à la condition que ce soit dans le ciel.
Espérez parfaitement dans la grâce,
etc. Dans ce chapitre, nous avons trouvé la foi dans le Seigneur, l'amour envers lui et maintenant l'espérance. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons à 10 reprises ces 3 choses ensemble. Foi dans une personne, amour pour une personne, espérance dans une personne. Tout est lié dans une personne, la personne de Christ.
La grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ,
la grâce d'être amené directement dans sa présence, d'être avec lui et semblable à lui pour toujours. Jude dit,
attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Verset 21. Quelle miséricorde pourrait être plus grande de la part du Seigneur que celle de nous enlever de cette scène de tristesse, d'épreuves et de mort, pour nous amener dans sa radieuse présence éternellement. Ce que Jude appelle miséricorde, Pierre le nomme grâce. Versets 14 à 16.
Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint.
L'apôtre nous ramène au temps présent et nous enseigne comment nous devons marcher, non comme nous voulons, mais comme le Père veut, car il s'attend à une sainteté pratique de notre part. Verset 17.
Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas.
Il ne s'agit pas d'un Christ juge, mais du Père veillant chaque jour sur ses enfants. Nous moissonnerons comme nous aurons semé. L'enfant obéissant fait son possible pour que rien ne survienne dans son chemin qui puisse déplaire à son Père. Par grâce, celui-ci réprimande parfois, mais son jugement est bon et bienfaisant pour nos âmes. C'est une grande erreur de supposer que les principes du gouvernement de Dieu ont changé, parce que le témoignage de Dieu, dans la lumière du christianisme, est différent de ce qu'il était pour le judaïsme. Le gouvernement moral de Dieu est exactement le même, bien que nous soyons sous la grâce. C'est pourquoi Pierre ajoute
« Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. »
Ce n'est pas la crainte qui engendre la servitude ou la crainte quant à notre salut, mais la connaissance de certaines vérités, telles que la rédemption et la jouissance de la place que Dieu nous accorde, doit rendre notre marche craintive. Si nous n'avons pas cette crainte, nous tombons. Aussi longtemps que nous vivons dans cette crainte, nous sommes préservés. C'est le jugement quotidien de Dieu sur ses enfants, non le jugement du grand trône blanc, ni le jugement de Christ sur les saints, mais le fait que le Père tient les yeux sur moi et qu'il me traitera selon ce qu'il aura vu.
Le Père juge selon l'œuvre de chacun.
C'est pourquoi je dois craindre, de peur de l'offenser ou de m'égarer. C'est la crainte de l'enfant envers son père. Versets 18-19.
Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
Deux choses nous sont rappelées, la rédemption par le sang, et le fait que nous sommes nés de nouveau. Vous avez été rachetés, dit Pierre, par le sang précieux de Christ. Comment pouvez-vous continuer à marcher dans le chemin du vieil homme? Si nous avons été touchés par l'amour merveilleux de Dieu, et avons été rachetés de l'esclavage de Satan, quel genre de conduite devrait être la nôtre? Nous avons été rachetés, et pas seulement achetés. Le rachat, c'est l'esclave libéré de sa condition d'esclave et mis dans une entière liberté. L'achat le laisse dans sa condition d'esclave et ne lui fait que changer de maître. Toute âme inconvertie appartient à Dieu. Dans sa seconde épître, Pierre parle du
« maître qui les a achetés ».
Il acheta le champ, c'est-à-dire le monde, et chaque habitant lui appartient. Même si les hommes le renient maintenant, le jour approche où ils devront le reconnaître comme Seigneur. Nous croyants avons tous été rachetés et rendus libres pour le servir en toute liberté. Il ne reste aucun esclavage pour les enfants de Dieu. Ils jouissent de ce que la grâce leur a donné. L'apôtre, ne l'oublions pas, s'adressait à des gens, juifs encore de pensées et d'esprit, et il emploie un langage beaucoup plus énergique. Le sang de l'agneau, qu'est-ce que cela disait à un juif? Cela lui remémorait la nuit d'Égypte, quand le sang de l'agneau égorgé était répandu sur les linteaux des portes, afin d'éloigner le jugement de Dieu. Cela lui parlait des sacrifices offerts dans le désert pour maintenir la place du peuple devant Dieu. Quand l'Esprit de Dieu disait par le moyen de Balaam,
« Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. »
Nombre 23, verset 21. N'y en avait-il vraiment point? Dieu n'en voyait pas. De même pour nous, il voit le sang qui nous a amenés dans sa présence. Aussi, le thème de notre louange sera-t-il éternellement l'agneau mis à mort. Remarquons cette expression.
Le sang précieux de Christ.
L'Écriture use rarement de qualificatifs, et plus spécialement encore quand il s'agit du Seigneur lui-même. Mais ici, elle fait exception. Le sang précieux, c'est ainsi que Dieu l'estime. Verset 20.
Préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous.
Déjà avant la fondation du monde, Dieu avait décidé d'envoyer l'agneau de Dieu, car la bénédiction des saints célestes, l'Église, avait été décidée de toute éternité. Voir Éphésiens 1, verset 4.
Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour.
Tite 1, verset 2.
Dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles.
1 Pierre 1, verset 20.
Préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps.
Matthieu 25, verset 34.
Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. »
Apocalypse 13, verset 8.
Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage.
Apocalypse 17, verset 8.
La bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente.
Du moment que le monde est créé, dit Dieu, j'aurai un peuple dans le monde, les Israélites. Mais l'Église n'appartient pas au monde, elle est céleste. Elle était prévue de toute éternité et appartient à l'éternité. Verset 21.
Vous qui, par lui, croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance fussent en Dieu.
L'homme n'a pas appris à connaître Dieu par les œuvres de la création, pas plus qu'on ne le trouve dans ses voies providentielles du temps de Moïse, ou dans ses révélations faites du haut du Sinaï. Dieu habitait alors dans la nuée, et personne n'osait approcher de la montagne. Une bête même n'osait la toucher sans être lapidée ou transpercée d'un dard. Exode 19, verset 13.
La main ne la touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée. Bête ou homme, ils ne vivront point.
Celui qui descendit sous une forme humaine et mourut pour nos péchés, celui-là révéla le cœur de Dieu envers l'homme, l'agneau de Dieu. Verset 22.
Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment d'un cœur pur.
Nous sommes pratiquement purifiés de nos anciens désirs et pensées. Ayons maintenant une affection fraternelle sans hypocrisie. Nous avons peut-être erré à travers le monde, inquiets et malheureux, jusqu'à ce que la grâce de Dieu entrât dans nos cœurs. Maintenant,
aimez-vous l'un l'autre ardemment.
Il est facile d'aimer des gens aimables, mais ce n'est pas aimer d'un cœur pur. Cet amour-là n'aime pas parce que l'objet le mérite, mais quand le contraire se présente. C'est l'amour de Dieu qui nous aime quand il n'y a rien d'aimable en nous. En Romains 5, l'apôtre dit
« À peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il ? »
Un homme juste est celui qui paie chacun et qui compte que chacun le paie, mais il ne récolte pas beaucoup d'amour.
Pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir.
Pour un philanthrope dont la vie s'est passée à faire du bien aux autres, l'apôtre n'en est pas même sûr. Quand nous étions sans justice, dépouillés de bonté, Dieu choisit ce moment-là pour nous aimer. Amour d'un cœur pur, amour dont Dieu voudrait nous voir animés. Qu'il est misérable d'entendre quelqu'un se plaindre de manque d'affection. Si nous manquons d'affection, c'est que nous n'aimons pas nos frères. Nous disons volontiers, il est impossible d'aimer certaines personnes. Pierre dit le contraire, aimez-les parce qu'ils sont rachetés et parce que vous avez reçu la faculté de les aimer, puisque vous êtes nés de nouveau.
Verset 23. Vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu.
La parole de Dieu qui nous a renouvelés. Versets 24 et 25.
Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché, et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée.
Cette citation d'Ésaïe 40 est très remarquable. Croyez-vous être meilleur que votre voisin ou votre voisin meilleur que vous? Dieu dit que toute chair est de l'herbe, et il le dit pour réconforter un peuple repentant. Dieu sait que je suis indigne, et il n'attend rien de bon de moi. Notre nature est comme l'herbe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu a mis dans nos âmes un principe de bénédiction immuable, éternel, qui vient de lui et qui est comme lui. Il a mis sa parole dans nos cœurs afin de nous rendre semblables à lui. Comme il est facile à l'enfant de ressembler au Père s'il reçoit cette nouvelle vie, pas d'effort dans l'amour, comme l'eau qui trouve son propre niveau. Nous jouissons de l'amour de Dieu, nous le répandons autour de nous. Quand nous étions tout à fait indignes, l'amour de Dieu mit en nous sa parole, qui rend l'enfant capable d'imiter son Père et d'aimer d'un cœur pur comme il aime. Nous avons été rachetés et renouvelés, et dans l'énergie de la nouvelle vie, nous désirons suivre les traces de l'action du Père. Pour lui plaire, il faut agir comme lui. Si nous aimons le Père, nous aimerons les enfants. Chapitre 2, versets 1 à 3.
Rejetant toute malice et toute fraude et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon.
Puisque nous possédons cette nouvelle vie, mettons de côté tout ce qui faisait partie de notre vie ancienne. La fraude n'aime pas être découverte. Comme était belle la parole du Seigneur au sujet de Nathanaël.
Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude.
Jean 1, verset 48. Être sans fraude, c'est être transparent. Le Seigneur était aussi pur que la lumière, car il était la lumière. L'hypocrisie doit aussi être mise de côté, c'est-à-dire le défaut qui fait croire ce qu'on n'est pas et cache ce qu'on est. Et l'envie est toute médisance. L'Écriture nous met complètement à découvert et nous montre ce que sont nos propres cœurs. Aucun autre livre ne révèle Dieu, mais aucun autre livre ne révèle l'homme. Si nous nous soumettions à ce qui nous est enjoint dans ce second chapitre, les mauvaises herbes ne pousseraient pas dans le jardin du Seigneur. Il est très facile de découvrir les défauts des autres, mais ce n'est pas une façon de les aider. Verset 2.
Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut.
Dans le premier chapitre, nous étions nés par la parole. Ici, nous recevons la nourriture de la nouvelle vie. La parole donne la vie, elle soutient et nourrit cette vie tout le long du chemin. Nous deviendrons des adultes seulement lorsque nous atteindrons le Seigneur dans la gloire. Ici-bas, nous porterons toujours le caractère d'enfant nouveau-né. Nous croîtrons en proportion de la mesure dont nous nous nourrissons et jouissons de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'aimer sa parole et d'en jouir de plus en plus, et de marcher dans l'obéissance jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Trop facilement, nous acceptons ce que les autres pensent de cette parole, c'est-à-dire que nous la recevons déformée. Si nous voulons être heureux, nous devons la recevoir nous-mêmes. Si un arbre est dépourvu de sève, il ne peut pas porter de fruits. La parole de Dieu est tout pour une âme. Saisissons-nous toutes les occasions qui s'offrent pour étudier cette parole. Peut-être ne pouvons-nous pas y consacrer des heures, mais utilisons-nous nos minutes. Est-elle notre guide journalier pour le chemin de la vie? Nous n'avons jamais été pris par Satan qui nous a fait trébucher. Nous n'avons jamais commis une faute dans notre vie qui n'ait été la conséquence de notre négligence de la parole de Dieu. Le Seigneur au désert déjoua Satan parce qu'il était nourri de la parole de Dieu et non parce que lui-même était Dieu. Chaque fois que nous avons été battus par Satan, c'est parce que nous n'avions pas la parole de Dieu pour nous accompagner. Nous trouvons dans la parole tout ce qui nous est nécessaire pour nous guider, en n'importe quelle circonstance, pourvu que nous y soyons soumis. Soyons soigneux et étudions la parole de Dieu avec prière, afin de connaître sa volonté. En comparaison d'autres, la Bible est un petit livre. Comment se fait-il que nous la connaissions si peu? La Bible est si profonde qu'elle doit être lue dans la dépendance de Dieu pour être comprise. Satan fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de la cultiver dans nos cœurs parce qu'il connaît sa valeur.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
Jean 14, versets 21 et 23. Dans la mesure où nos âmes observeront la parole écrite, nous trouverons l'Esprit de Dieu qui nous rendra capables de jouir de celui qui est la parole vivante. Ne nous étonnons pas que Pierre recommande si sérieusement l'étude de la parole de Dieu. Il fait allusion à sa propre histoire. S'il s'était souvenu de la parole du Seigneur, il n'aurait jamais renié son maître dans la cour de Pilate. Chapitre 21. Notre sacrificature sainte et royale. 1 Pierre chapitre 2.
Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie, et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel, vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, faites édifier une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par ce qu'on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement, et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Soyez donc soumis à tout ordre humain, pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car c'est ici la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres, et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux, car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si souffleté pour avoir mal fait vous l'endurez? Mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes.
Après nous avoir montré dans le premier chapitre le chrétien racheté, renouvelé et rendu puissant par le Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, Pierre expose quelles doivent être dorénavant nos nouvelles relations. Les chrétiens unis entre eux forment une maison spirituelle et une sacrificature sainte et royale, sainte par rapport à Dieu, royale par rapport à l'homme. Mais tout vient de Christ. Versets 4 et 5.
Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Pierre aime beaucoup le mot « vivant ». Souvenons-nous du témoignage qu'il rendit à Jésus en Matthieu 16.
« Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant.
Et ici,
vous êtes venus à une pierre vivante.
Et il ajoute l'appréciation de Dieu à son sujet,
choisie et précieuse. Duquel vous approchant,
nous avons affaire à une personne. Si nous avons affaire avec le Fils de Dieu, comme étant une personne vivante, nous serons aussi comme des pierres vivantes édifiées. Qu'est-ce qu'un chrétien? Une pierre vivante. Qu'est-ce qu'une pierre? Une parcelle de rocher. Quelle sécurité! Nous en avons eu une première illustration dans le cas de Pierre. Jésus lui dit,
« Tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre. »
Jean 1, verset 43. C'est-à-dire, il devient le seigneur de Simon, son possesseur. Changer le nom de quelqu'un indique que cette personne devient votre vassal, votre propriété. Pour l'obtenir, le Seigneur a parlé à Pierre. Nous deviendrons des pierres vivantes en écoutant la voix du Fils de Dieu.
L'heure vient, et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
Jean 5, verset 25. Lui est la pierre vivante. Le chrétien, venu à Christ, devient une pierre vivante. Nous avons donc la vie du rocher, la même que la sienne. Sa vie est notre maintenant, car
notre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Colossiens 3, verset 3. La maison spirituelle dont Pierre parle ici correspond à ce que Paul appelle le corps. Ce que Paul appelle le corps, Pierre l'appelle la maison. Mais ce n'est pas du tout ce que Paul entend par maison. Quand il emploie cette expression, il veut désigner la profession dans son ensemble. Pour voir la maison spirituelle en perfection, lisons Apocalypse 21. Les pierres qui la composent sont exactement les mêmes que celles de notre chapitre. Elles brilleront alors d'un éclat merveilleux, car elles auront passé sur le tour du grand lapidaire qui les aura nettoyées de toute impureté, de toute souillure et rendue transparente. Les pierres devraient briller pour Christ maintenant déjà. Que ce serait beau si le monde pouvait lire Christ en nous. Peu à peu, les nations marcheront dans la lumière de cette cité et verront Christ venant en gloire. Les croyants composent non seulement la maison spirituelle, mais encore une sainte sacrificature. L'idée que l'homme se fait du prêtre est celle de quelqu'un qui s'interpose entre l'âme et Dieu et fait le travail de l'âme avec Dieu. C'était exact pour l'époque de l'Ancien Testament. Mais maintenant, toute âme qui est sauvée devient un sacrificateur. Est-ce que j'exerce ma sacrificature? Est une question de toute importance pour chaque croyant. Nous ne sommes pas tous des ministres. Car Dieu ne nous a pas donné à tous la puissance de répandre sa parole, mais nous sommes tous sacrificateurs. Le ministère est l'exercice d'un don spirituel, le moyen divin de présenter la vérité de Dieu aux âmes. Si le ministère public est limité selon le don reçu, la sacrificature appartient aux plus jeunes aussi bien qu'aux plus faibles, aux femmes aussi bien qu'aux hommes. L'adoration est le résultat du service de la sainte sacrificature, le ministère est l'exercice du don que le Seigneur donne. L'adoration va de l'âme à Dieu, le ministère vient de Dieu à l'âme. Les saints sacrificateurs offrent des sacrifices spirituels.
Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom.
Hébreux 13, verset 15. Des louanges devraient s'élever continuellement de nos cœurs à Dieu. Le Seigneur nous unit pour louer, remercier et bénir Dieu. Dieu doit occuper la première place. À lui, premièrement, nous devons rendre ce qui est dû. Nous n'avons pas à annoncer l'Évangile d'abord, c'est l'erreur générale. Mettre le monde et le salut des âmes comme premier but, chaque chose a sa place. Apportons tout le zèle et le sérieux nécessaires au salut des âmes, mais répondons d'abord au droit de Dieu sur nous, saints sacrificateurs. En quoi consiste la grande œuvre de Dieu depuis le jour de la Pentecôte? Qu'a-t-il cherché? Le Père cherche des adorateurs. Et parce que le Père cherche des adorateurs, le Fils cherche des pécheurs. Quand il les a trouvés, il en fait des adorateurs. Une fois que nous sommes adorateurs et saints sacrificateurs, il nous est facile de remplir nos fonctions de sacrificature royale. Regardant à Dieu, nous sommes de saints sacrificateurs. Et, en traversant ce monde, nous devons être des sacrificateurs royaux. Que donne la royauté? Elle donne le sentiment de la dignité. Quoi de plus digne que d'être ambassadeur de Dieu dans un monde qui s'oppose à sa grâce? Verset 9.
Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Nous devons exercer notre sainte sacrificature, c'est un de nos privilèges. L'exerçons-nous. Pierre dit que les sacrifices spirituels sont agréables à Dieu, qui les désire et y trouve son plaisir. La sacrificature de l'Ancien Testament nous présente une image de notre position. Qu'est-ce que Dieu met entre nos mains? Christ. Il ne nous demande pas d'être occupés de nous, de notre position, de nos bénédictions, mais d'être occupés de Christ, de ce qu'il est, de la valeur qu'il a pour Dieu, c'est-à-dire précieux. Dieu le voit tel, et la foi voit comme Dieu. Ce serait une aide immense si, dans nos réunions d'adoration, nous étions tous remplis de la pensée que nous nous trouvons ensemble comme étant tous sacrificateurs, afin d'offrir à Dieu ce en quoi il prend plaisir. Notre condition individuelle influe beaucoup sur l'assemblée de Dieu. Si la plupart des sacrificateurs sont mornes et inattentifs, toute l'assemblée s'en ressentira. Si nos âmes étaient illuminées par l'amour et la faveur de Dieu, nos réunions seraient remplies de Christ et de Christ seulement. Mais nous avons encore une sacrificature royale à exercer. Elle est de même nature que la sacrificature de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, le Seigneur exerce une sacrificature aaronique, mais selon l'ordre de Melchisédek. En regardant à son peuple, il ne rencontre que faiblesses et infirmités. Quand il reviendra comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il n'y aura plus de faiblesse, mais il n'y aura que des louanges et la bénédiction, conséquence de sa victoire. En attendant, le Seigneur nous demande de témoigner pour lui, de répandre sa grâce et son amour, et de pourvoir à n'importe quel besoin d'âme ou de corps parmi ceux qui nous entourent. Qu'est-ce que la sacrificature de Melchisédek? Une sacrificature de parfaite bénédiction. Un chrétien est donc une personne qui est bénie et qui apporte la bénédiction. Christ nous laisse dans ce monde pour que notre cœur s'élève à Dieu continuellement en louange et en reconnaissance, et pour apporter aux hommes de la bienveillance et de la bonté. Versets 7 et 8.
C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement, et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés.
Tel fut le chemin d'Israël comme nation. Pourquoi heurtent-ils contre la parole? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Comme nation, ils sont destinés à avoir cette pierre devant eux. Dieu leur donna le plus merveilleux privilège possible. Il plaça Christ devant eux, mais ils ont trébuché contre lui parce qu'ils venaient en grâce. La race élue, ce sont les croyants, le faible résidu d'Israël, qui se sont tournés vers Dieu et qui peuvent ainsi jouir de toutes les bénédictions promises à la nation. Selon Exode chapitre 19, S'ils avaient été obéissants, ils auraient été pour Dieu son trésor particulier. Mais ils furent désobéissants, et ils ont tout perdu.
Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Pierre pensait au prophète Osée en écrivant ces mots. À cause de ses péchés, Dieu n'avait pas voulu faire miséricorde à Israël et ne le reconnaissait plus comme son peuple. Néanmoins, peu à peu, Dieu les bénira au lieu même où ils auront été jugés. Osée 2, verset 23. Car la désobéissance ne peut pas frustrer les desseins de Dieu en grâce. Osée 2, verset 23.
Et je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à l'eau Rukama, et je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple, et il me dira, mon Dieu.
Ces promesses s'accompliront dans la vallée d'Accor. Josué 7, verset 26 et Osée 2, verset 15. L'endroit où le premier jugement fondit sur Israël. Josué 7, verset 26.
Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres qui est demeuré jusqu'à ce jour, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a appelé le nom de ce lieu-là la vallée d'Accor jusqu'à ce jour.
Osée 2, verset 15.
Et je lui parlerai au cœur, et de là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor pour une porte d'espérance. Et là elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte.
Mais, dit Pierre, vous croyants, vous recevrez cette miséricorde avant le moment où Dieu restaurera la nation. Après avoir ainsi bien déterminé la place occupée par les croyants parmi les Juifs, l'apôtre commence ses exhortations. Dans la parole de Dieu, les exhortations sont toujours basées sur la révélation des relations entre l'âme et Dieu. Elles arrivent ici simplement et naturellement. Au chapitre 1, Pierre a parlé de l'appel céleste. Les croyants, choisis par le Père, sont mis à part par l'œuvre de l'Esprit et protégés par le sang du Fils de Dieu. Un héritage est réservé dans les cieux pour eux, et eux sont gardés dans ce but. Malgré les épreuves, ils peuvent se réjouir en celui qu'ils aiment, bien qu'ils ne le voient pas. Ils sont donc enfants du Père, rachetés par le sang du Fils, renouvelés par l'Esprit et la parole de Dieu. Le chapitre 2 les voit dans leur nouvelle position. Ils composent une maison spirituelle dans laquelle Dieu habite. Ils sont une sacrificature sainte et royale. Peuple de Dieu, ils ont obtenu miséricorde. Telle est la situation du croyant pour Pierre. Il est laissé ici-bas pour offrir à Dieu ce que lui, le Seigneur, devrait recevoir des hommes, et pour montrer aux hommes ce que Dieu est dans sa grâce et son amour. Verset 11.
Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme.
Les chrétiens sont forains et étrangers, parce qu'ils sont loin de la maison. Nous sommes pèlerins, parce que nous allons vers un lieu que nous désirons atteindre. Nos espoirs, nos joies et celui que nous aimons sont au ciel. Aussi nous considérons le ciel comme notre demeure. Nés du ciel, nous appartenons au ciel. Notre Père est au ciel, notre Sauveur est au ciel, toutes nos ressources sont au ciel. Nous sommes ici-bas comme des plantes exotiques, étrangères à ce climat.
Vous abstenir des convoitises charnelles.
Ce sont ces mille et une petites choses qui viennent interrompre la communion avec Dieu et qui empêchent la croissance et la connaissance de Christ. Vous connaissez, dit l'apôtre, les pièges qui peuvent vous faire trébucher, et vous devez vous préparer à renoncer à ces choses qui font la guerre à l'âme. pour être puissants extérieurement, il faut avoir premièrement de la pureté intérieure. Pour être heureux, il faut avoir de la sainteté. La sainteté est l'action de se juger soi-même, de se considérer comme mort, car Dieu nous a mis dans une telle position par la croix de Christ. Versets 12 à 15.
Ayant une conduite honnête parmi les nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous, comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Car c'est ici la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens.
C'est notre témoignage extérieur. Si le cœur est purifié par le Seigneur, notre témoignage extérieur sera bon. Mais nous devons prendre garde à notre conduite parmi les gentils, c'est-à-dire les incrédules, afin qu'ils n'aient rien à dire contre nous. Il faut qu'ils puissent confesser devant Dieu que nos œuvres sont dignes du Seigneur et qu'ils sachent que Dieu travaille en nous et par nous. Tel est le sens de la conduite honnête que nous avons à observer. Le verset 12 est la règle de la vie extérieure, le verset 11 celle de la vie intérieure, et le verset 13 la soumission aux autorités pour l'amour du Seigneur. Si les autorités instituaient des lois injustes, le devoir du chrétien serait de s'y soumettre. C'est sous le règne du plus méchant des rois, Néron, que Paul écrivait aux chrétiens romains de se soumettre aux autorités, parce qu'elles sont ordonnées de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même est venu dans ce monde, n'ayant aucun droit, bafoué, souffleté, et finalement banni de ce monde. Le chrétien de même doit suivre Christ. À moins que la loi n'enfreigne la volonté de Dieu, nous devons nous y soumettre et témoigner par là des vertus qui sont en Christ. Si un chrétien prend part à la lutte ou se met du côté du monde, il ne pourra porter aucun témoignage de patience et de tolérance. Verset 16.
Comme libre, et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclave de Dieu.
Le chrétien n'appartient pas au monde, mais au ciel. Il jouit d'une entière liberté, mais il doit en user comme serviteur de Dieu. Le but du serviteur est de suivre la volonté de son maître, et la volonté de Dieu est de nous voir soumis. Verset 17.
Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi.
Pierre entame la question de nos relations avec notre prochain. Rendons l'honneur à qui l'honneur est dû. Un certain orgueil nous retient parfois de le faire, mais rien n'est plus contraire à Dieu, car devant Dieu, tous les hommes sont égaux et ne sont qu'un dans le Christ Jésus. Dieu a élevé son Fils, et avec lui, chaque croyant est placé dans sa présence. En Christ, il n'y a ni juif, ni gentil, ni esclave, ni homme libre. Dans ce seul verset, Pierre unit ces quatre choses, le monde, les frères, Dieu, le roi. Il est vain pour nous de dire que nous craignons Dieu si nous ne donnons pas à tous les hommes ce que Dieu désire, si nous ne cherchons pas à maintenir devant lui, selon son désir, toutes les relations dans lesquelles il nous place. Verset 18.
Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux.
L'apôtre ne s'adresse pas à des esclaves mais à des domestiques et leur recommande d'être soumis en toute crainte. Il peut y avoir des maîtres très durs, de mauvais caractère. Ce n'est pas une excuse. Reconnaissons nos faiblesses, ne les justifions pas. La crainte ici est celle d'être, dans une position subordonnée, de mauvais témoins pour Dieu. Les maîtres peuvent être incrédules, mais nous devons témoigner pour Dieu. Versets 19 à 22.
Car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, souffleté pour avoir mal fait, vous l'endurez? Mais si, en faisant le bien, vous souffrez, et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude.
Si vous faites bien, et que vous receviez des reproches, soyez patients. N'oublions pas que Christ a souffert ainsi pour nous. Pierre parle de souffrir à cause de la conscience, à cause de la justice, à cause de Christ. Nous pouvons souffrir à cause de la conscience parce que le Maître peut donner un ordre contraire à Dieu, et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'obéissance à Dieu est la toute première règle, le grand principe de la vie chrétienne. Si, pour obéir à mon Maître, je dois désobéir à Dieu, je suis condamné, selon ce que Pierre disait au chapitre 4 des Actes.
Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu.
Dans ce cas, je souffre à cause de la conscience, et l'âme reçoit comme récompense la faveur et la bénédiction du Seigneur. Verset 23.
Qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement.
Tel est l'exemple que nous donne Christ. Il se remettait entièrement entre les mains de Dieu et acceptait toute chose comme venant de Dieu. Si nous agissons de même, il en résultera une richesse de bénédiction pour nous. Versets 24 et 25.
Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes.
La perfection de Christ dirige les pensées de l'apôtre vers la grandeur de ses souffrances, car nos péchés l'ont mené à la croix. Maintenant nous sommes morts au péché, mais vivants à Dieu. Jésus fait toutes choses bien. Nous nous étions éloignés, mais il nous a ramenés afin que nous ayons affaire à lui, lui le surveillant, celui qui prend soin de nos âmes, le berger qui veille sur ses brebis. Que le Seigneur nous donne de jouir de plus en plus de lui, de le suivre, d'apprendre de lui, d'avoir sa parole comme joie quotidienne de nos âmes et de produire du fruit par nos vies.